Salut Alex, comment ça va?
Salut Gab, comment ça va? Hey, c'est la première fois que c'est toi qui commence, ça me stresse quasiment, mais bon, c'est correct.
J'ai pris le lead. En tout cas, bref, on a un épisode spécial aujourd'hui. Un peu plus tard dans l'émission, on a une entrevue avec Marco, c'est un de mes collègues, qui est passé 100% à l'électrique. Il possède deux voitures électriques maintenant. Donc, si vous restez avec nous là, jusqu'à la fin de l'épisode, vous allez pouvoir entendre cette entrevue-là.
Ça n'aurait pas de bon sens que les gens restent pas, Gab.
Mais je sais, mais ils n'ont pas le choix.
En tout cas, ils n'ont pas le choix. Tout le monde va rester
avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. Puis ensuite, donc, on a ça, on va faire les nouvelles avant. On va parler du Rivian R1T, comme on vous a promis à l'épisode dernier. On va prendre quelques minutes pour discuter de ça. Mais avant, Alex, dans un épisode précédent, on avait discuté plusieurs fois des Tesla Model 3 usagés à vendre plus cher que des neufs.
Genre vraiment trop cher.
Ouais, mettons, des fois, c'est comme presque 5 à 10 000 $ de plus pour une usagée qu'une neuve après subvention. Donc, usagée, il n'y a pas de subvention. Neuve, c'est plus cher.
Mais mettons, fais un exemple. Tu sais, mettons, on sait qu'une Tesla Model 3 achetée comptant au Québec, c'est 51 000 avec les taxes. Là, Standard Range Plus.
Oui. Ben, en fait, c'est 53 000 $ moins les rabais dont certains sont après-taxes. Puis ça donne à peu près, là, je pense que c'est comme 41 000, 42 000 plus taxes. Là, dans cette
ouais, ça fait 50 quelques, mettons. Là.
Que ça fait à peu près 50 000. Mais, disons 43 000 avant taxe, à peu près, de cet ordre-là. Puis là, j'en ai vu une à vendre usagée, 48 000 quelques dollars. T'es une Standard Range Plus, là, de roues motrices, celle que les gens achètent, là, qui est subventionnée généralement. 2019.
Ah, pas de thermopompe, OK.
33 000 kilomètres. Puis, c'est un concessionnaire usagé qui semble, on ne le nommera pas, là, c'est un concessionnaire qui vend beaucoup de voitures, il vendait beaucoup de Tesla usagés. Il y avait des modèles S, des modèles Y, des modèles 3, des modèles 3 Performance, All-Wheel Drive.
Fait que c'est un gars qui spécialise dans la revente de Tesla. Parce que maintenant, en Norvège, il y a beaucoup de gens qui font ça. Là. C'est rendu populaire.
Je ne sais pas s'il se spécialise là-dedans, mais clairement, il y avait au moins, minimum, une dizaine, il y avait au moins 10 Tesla à vendre.
Okay, donc, c'est, bon.
C'est quelqu'un qui... c'est pas le concessionnaire de voitures usagées typique qui en a peut-être une de temps en temps. Puis je leur ai écrit, je leur ai demandé... pourquoi vous vendez les Tesla plus chers? Puis essentiellement, il y avait quand même une explication assez détaillée là, puis rigoureuse. Là. D'abord, il m'a expliqué que les subventions, oui, ça existe au Québec. Là. Puis il y a une subvention fédérale de 5000 $ si tu achètes ce modèle-là, Standard Range Plus à propulsion. Il dit, mais le 8000 $ c'est juste au Québec. Le 5000 $ c'est au fédéral. Puis en fait, il n'y a pas de subvention de 8000 $ dans les autres provinces. Puis ça fait une pression à la hausse parce que oui, les voitures sont vendues moins chères ici, mais il y a quand même des gens qui veulent acheter des Tesla qui ont un an ou deux ans ou trois ans, surtout des modèles 3 puis des modèles Y, particulièrement le modèle 3 dans les autres provinces. Puis ces gens-là, ils vivent pas dans notre paradigme de monde de licorne de Tesla avec 13 000 $
fait qu'ils sont moins chers pour eux.
Oui, donc presque. Exactement. Donc, ça fait du sens pour eux de payer ce prix-là. Puis ça fait que bon, le marché et les voitures, ils se déplacent entre les provinces au Canada. Donc ça fait une pression à la hausse. Puis deuxième point, ce qu'il m'expliquait, c'est que en fait, il y a une demande. Là, une Tesla, si tu en achètes une neuve, tu as un 2, 3, 4 mois d'attente. Ils ne gardent pas de voitures stock dans les concessionnaires. Tu peux pas te présenter chez Tesla, acheter une voiture, partir avec la semaine même. Faut que tu la demandes. Puis bon, c'est la pandémie, les gens achètent des autos, ils veulent
changer d'auto. C'est encore pire.
Tout le monde veut des autos, il y a une demande énorme pour les autos, puis les Tesla, ils sont associés à statut social, tout, ils ont une valeur de revente énorme, il y a énormément de demandes plus qu'il y a d'offres. Puis il y a des gens au Québec aujourd'hui qui sont prêts à payer le prix que ce concessionnaire-là demande pour des voitures comme des Tesla Model 3 2019, 2018 peut-être, 2020, plus cher qu'une neuve. Parce que pour eux, c'est ça que ça vaut, puis ils sont prêts à payer pour ça, ils la veulent maintenant, puis ils sont conscients que c'est plus cher.
Mais Gab, il est 20, Gab. S'il est 20, c'est legit.
Exactement. Ce qu'il m'a dit, c'est je les vends, puis si j'étais pas capable de les vendre à ce prix-là, j'arrêterais immédiatement de vendre des Tesla Model 3, mais ils sont capables, puis les gens, ils les achètent. Fait que la réalité, c'est que même si moi, j'ai mes visions financières, puis que je serais pas capable de payer ce prix-là pour une auto, ben, y a des gens qui sont prêts à le faire, puis ces gens-là, ils trouvent leur compte là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'ils se vendent des Tesla Model 3 plus chers qu'usagés que neufs.
Et tu dis ça, puis il y a une chose que, tu sais, je suis critique sur Tesla des fois, puis je suis pas critique sur Tesla des fois. Il y a une chose que Tesla fait de bien avec les véhicules. ils les gèrent comme des téléphones. Une Tesla Model 3 2018 ou 2019 a eu assez de mises à jour pour avoir une interface et des fonctions similaires à une Tesla que tu vas acheter 2021. La seule différence, ça va être la chimie de la batterie et la thermopompe. Mais à la fin, tu as accès aux mêmes mises à jour du système plus rapidement. Ils ont même débloqué en améliorant leur programmation de l'autonomie. Donc ça, c'est bien parce que, mettons, des voitures très, très modernes aujourd'hui, tu les achètes 2019, ben 2019, c'est fini, il n'y a plus d'update, c'est terminé. Donc, ils combattent un peu l'obsolescence programmée. Donc, ces voitures-là, même usagées de quelques années, s'ils sont en très bon état, ben ils sont comme neuves parce qu'en réalité, le 2021-2022, il n'y a aucune différence. Donc ça, c'est bien. D'un certain point de vue, puis je peux comprendre la valeur ajoutée.
C'est des voitures aussi où est-ce que tu peux acheter l'option du full self-driving après coup, donc la conduite est presque 100% autonome. Puis tu pourrais pas acheter une Tesla neuve avec cette option-là déjà dessus et avoir la subvention parce qu'elle serait plus que 55 000 $. Donc c'est un contexte vraiment particulier, mais il reste que des gens qui trouvent leur compte là-dedans, là, y compris des gens qui achètent des voitures. Puis ben, à un moment donné, c'est l'offre et la demande, puis c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est juste de même que ça marche, puis il n'y a rien à dire là-dessus.
Puis ça nous amène... Oui,
ouais. Le Rivian, là, j'avais dit à RT1, là, podcast
la
avant. Semaine dernière, excusez. Mais c'est correct, dans la vie, il faut être honnête. Hein. On est demain. L'histoire du podcast, mais c'est pas grave, c'est comme ça que la vie fonctionne.
Mais on est la semaine prochaine.
Mais exactement, fait qu'on voyage à travers le temps. Le Rivian R1T. Là, évidemment, Motor Trend, là, puis regarde, ils m'écouteront pas parce que c'est anglais. Là. Je vais te lire le headline, le titre. « The 2022 Rivian R1T is the most remarkable pickup we're ever driven. » OK. Les autres, ceux-là, sont flabbergast, c'est capoté. Mais là, je descends, puis je lis ça, leur article, puis dans le fond, c'est les premiers à avoir fait un essai, puis ils l'ont eu pendant 8 jours, d'un Rivian R1T. Bravo. Qui est d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ça pantoute, là, c'est une nouvelle compagnie de voitures américaine, donc un genre de Tesla 2.0, qui fait une camionnette et un VUS qui va sortir bientôt. Le pick-up là, au mois de septembre, on est au mois de septembre, mais devrait être livré au premier client. Je regarde ça, puis évidemment, je ne vais pas dire que, encore une fois, c'est du hype là, comme du hype de Ford Bronco, mais ça reste que, effectivement, que c'est fabuleux parce que c'est le premier. Mais. Mon opinion, froidement, avant d'avoir lu l'article, le F-150, ça va être mieux. Parce que c'est un F-150. Tu comprends, Gab?
Ben, en fait, là, ce qui est différent, puis je suis pas vraiment d'accord avec toi, c'est que le Rivian R1T, c'est la première camionnette qui est construite avec la vision que Tesla a amenée de ce que ça doit être une voiture d'un point de vue technologique. T'sais, dans le fond, Tesla fait des voitures très différentes des autres constructeurs. Tesla va faire un Cybertruck. Puis je pense que ça va être un peu dans la même veine. T'sais, dans le fond, le F-150 électrique, le F-150 Lightning, c'est un F-150 électrique.
Mais attention, attention, gars.
C'est une voiture électrique qui est un pick-up.
Oui, mais...
C'est pas la même chose.
Faut faire attention. Quand on deep dive là, dans l'ingénierie du F-150, le châssis, tu pourrais pas enlever la cabine d'un F-150 normal et mettre le châssis du F-150 électrique en dessous. C'est un châssis complètement différent. Oui, c'est encore un châssis à échelle. Je ne sais pas si le Rivian R1T, c'est monocoque ou un châssis à échelle. Mais quand même, Ford a quand même... Tu sais, c'est une voiture complètement différente. Là. Il est pareil, mais il est complètement différent. C'est vraiment pas la même voiture. Tu sais, puis Ford aurait pu juste adapter puis mettre la batterie en dessous de la boîte pour se poser de questions.
Je sais, mais au niveau c'est complètement une autre voiture. Ces choses-là, l'intérieur d'une Tesla, c'est tellement différent d'une autre voiture. Ford, par exemple, a fait le Mach-E comme Tesla fait des Tesla.
Ben oui.
Le Rivian R1T, c'est une camionnette comme Tesla fait des Tesla. Puis je pense que le F-150 électrique, c'est une camionnette comme Ford fait des camionnettes. C'est juste qu'elle est électrique. Même si d'un point de vue technique, je comprends que c'est pas interchangeable. Mais c'est juste pas la même philosophie. Puis je suis pas contre le Rivian R1T. Là, ou pour,
mais moi non plus, je suis pas contre. Je dis juste que j'ai comme l'impression que c'est niche au cube. Parce qu'en plus, c'est plus petit... qu'une camionnette 1500, un Ram, un Silverado ou un F-150. Fait que, aux États-Unis, là, quand tu tombes dans le entre les deux, là, les gens font comme...
Ben, écoute, là, ça amène à un point important. Là. Les compagnies d'automobiles, ils sont censés, on pense, faire des autos pour en vendre. Là. Quoique Ford, des fois, fait des trucs un peu spéciaux. Mais ils sont censés vendre des autos. Puis honnêtement, toi puis moi, là, je veux dire, on en connaît des gens qui ont envie d'avoir des Tesla, qui ont des Tesla, des choses comme ça, c'est super désirable. Y as-tu des gens qui te parlent du Rivian R1T qui ont envie de mettre, je ne sais pas combien ça va coûter,
80 000 $
dans cette voiture-là?
Il n'y a personne qui m'en a parlé. Mais...
Ben, c'est ça. Écoutez, est-ce que fondamentalement, le Rivian R1T, c'est une bonne auto? Ben, écoute, il a l'air d'avoir des trucs incroyables. Il y a une suspension hydraulique et pneumatique. Fait une suspension à l'air, mais l'élévation, de changer la hauteur de la voiture, plutôt que de le faire avec une pression pneumatique et donc de rendre la suspension plus ferme, comme c'est historiquement le cas avec toutes les VUS qui ont des suspensions pneumatiques ou les camionnettes avec des suspensions pneumatiques, que tu peux remonter la voiture, tu as augmenté la garde au sol, mais tu le fais avec un compromis sur la confort, mais eux, ils augmentent la hauteur hydrauliquement, puis gardent la même portion de suspension-amortissement, puis c'est incroyable, c'est sûr.
Ça, c'est incroyable. Ça, je te dis, moi, je trouve que ça, c'est la chose que je trouve le plus impressionnant.
Exactement, c'est la meilleure combinaison, sauf que ça fait, disons, ça brise, une suspension à l'air, ça brise plus qu'une suspension normale, une suspension hydraulique, ça brise plus qu'une suspension normale.
Là, t'as mis les deux en même temps.
Hydropneumatique, ça brise probablement au cube 4 fois plus, mais fondamentalement, les performances que ça amène, les gens de Montauchon, ils disaient, il n'y a aucune camionnette qui a ce genre de conduite-là, puis tu augmentes la garde au sol, puis ça reste incroyable, la conduite, puis le confort, puis le comportement routier. Et je pense pas que ce soit une mauvaise camionnette, le Rivian. Je pense que la question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à créer toute la communauté autour d'eux qui existe autour des Tesla et donc qui justifie que Tesla est capable de convaincre des gens qui s'achètent, de s'acheter des autos beaucoup plus chères que ce qu'ils achètent normalement. Est-ce que Rivian va réussir à faire ça? Je sais pas. Son premier au marché avec une camionnette électrique ou dans les premiers, ça va faire une grosse différence parce que le Cybertruck n'est pas proche de sortir.
Non.
Elon Musk a dit, si je faisais des Cybertrucks aujourd'hui, ils coûteraient $1 million chaque.
Un million, imagine.
Parce que je pense que la production des batteries, c'est pas à niveau. Donc, peut-être que parce qu'ils sont les premiers, ça va leur donner un avantage. Là. Moi, je suis trip marketing, là, c'est ça que je fais dans la vie. Puis être premier au marché, c'est l'essentiel. Là.
Ça, je suis d'accord avec toi.
C'est une énorme différence.
Mais...
Donc, oui, ils vont en vendre, mais est-ce que ça va être durable, ce hype-là? Puis est-ce que ça va aller chercher autant de gens que Tesla? Je pense pas.
Mais justement, c'est là que je m'en vais, tu sais. Je veux pas les bâcher. Ça serait vraiment leur manquer de respect parce qu'en la réalité, là, c'est de l'innovation, c'est de l'ingénierie, c'est des gens qui essayent. Il n'y a rien de mal là-dedans, puis ça prend ça dans un système où la compétition fait que les produits sont de plus en plus meilleurs. Mais sais-tu qu'est-ce que moi je vois? Je regarde ça aller. Là, parce que tu m'as allumé un peu quand tu as dit est-ce que quelqu'un t'en a déjà parlé? Ben personne. Ça serait pas merveilleux que Tesla ou Ford achètent ça? Fait juste cette année, fini. Oui, je sais, ils ont investi, mais. Tout le monde pensait que ça allait juste être un Ford. Mais ça ne l'est pas. Mais si ça pogne, c'est sûr que quelqu'un les achète.
Ben, est-ce que Ford va vouloir intégrer cette mécanique-là, cette plateforme-là dans de ses véhicules? Et est-ce que, éventuellement, je ne sais pas, on va voir un Ranger qui en fait est un Rivian électrique, je ne sais pas, peut-être. C'est à voir. Je pense que Ford a fait ce move-là, entre autres, pour aller chercher des technologies et des choses comme ça qui ont été développées par Rivian. Je pense que c'est cette relation-là avec Ford qui va faire une grosse différence. T'sais. Si tu peux acheter un camion Rivian chez Ford, versus il faut juste que tu l'achètes sur Internet, puis il n'y a pas de concessionnaire, puis il n'y en aura pas, disons, en dehors des grands centres canadiens qui sont Montréal, Toronto, Vancouver avant quelques années. Non, ça ira pas vite. Fait que je pense que cette relation-là avec Ford va être clé, puis je sais pas où ils veulent que ça aille, en fait.
En tout cas, ça va être à voir, mais comme l'article le dit, les premières livraisons en septembre, donc probablement dans les deux prochaines semaines ou trois prochaines semaines, il reste trois semaines au mois de septembre, ça va être à voir. Parce que moi aussi, tu sais, c'est bon être les premiers dans le marché, mais s'ils en ont livré seulement 12, ça fait pas grand-chose, tu comprends, gars?
Ben, c'est ça que je dis. Je pense, je sais pas. En tout cas, peut-être qu'aux États-Unis, ça va être, je pense, c'est un marché très différent. Là. C'est plus facile de vendre des autos chères aux États-Unis qu'au Québec, en tout cas. Là.
Qu'au Québec, surtout.
Qu'au Québec, surtout. Là, au Québec, en général, on vit dans notre monde, puis on a toujours vendu plus de voitures compactes, puis sous-compactes moins chères qu'ailleurs au Canada.
On est une copie presque de certains marchés européens. Là. Oui, très très proche. Là. On est le marché automobile en dehors de la Norvège qui ressemble le plus à la Norvège. Fait que, je veux dire,
disons, il y a quoi? Il y a deux, trois RAV4 Prime là, dans un rayon de une rue de chez moi. Je pense que ça va être plus long avant que je vois deux, trois
Rivian. Gab, j'ai pire que ça. J'ai deux Volvo T8 dans mon quartier, puis un de ces Volvo-là est parqué à côté d'une Model S. Imagine.
Tu vois,
t'sais, c'est comme genre l'overload de l'électrique trop cher.
Il y a des Tesla Model 3 aussi chez moi, mais t'sais, un Rivian R1T, je pense que ça va être long. Puis ben, l'avenir nous le dira en fait, où ça s'en va. Ouais. On n'a pas de boule de cristal.
T'sais, je veux dire, l'ingénierie, l'innovation, je suis pas contre ça, c'est juste que j'ai comme l'impression que c'est du super hype. C'est du hype par-dessus du hype par-dessus du hype. C'est ça que j'ai peur. Puis j'essaie de ne pas trop tomber dans ce panneau-là.
Ben, moi, j'ai pas de doute. Je pense que ça va être comme Tesla, en fait. C'est que le groupe motopropulseur, ça va être incroyable. La technologie va être incroyable.
Mais l'assemblage va être poète, poète, poète.
La qualité, tu sais, va peut-être être douteuse. Là, ils sont supportés par Ford. Puis Ford, ils ont l'expérience de faire des autos qui fonctionnent. Peut-être qu'ils vont les aider, puis ça va bien aller. Puis ils vont rapidement atteindre un niveau de qualité acceptable, contrairement à Tesla. Je sais pas. On va voir au courant des prochaines années. J'ai hâte d'en croiser un sur la route.
Oui, ça c'est sûr. Sur ce, Gab, notre entrevue avec ton collègue.
Oui, donc on transitionne avec l'entrevue avec Marco. Bonjour Marco, bienvenue dans notre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton expérience électrique. Donc, si tu veux nous parler de ça, là, d'abord... c'est quoi les voitures électriques là, que tu conduis en ce moment? Je pense que tu es passé complètement à l'électrique.
Bonjour Gabriel, bonjour Alexandre. Premièrement, je voudrais vous remercier pour cette invitation qui est très appréciée. J'adore l'idée de partager mon expérience électrique avec vos
Merci
auditeurs.
Beaucoup.
Alors, j'ai une Hyundai Ioniq PHEV 2019 et une Nissan Leaf 2020, le modèle Plus, donc qui a un peu plus d'autonomie. Et j'ai acheté la Ioniq en premier. Avant, j'avais aussi un Prius C qui était pas branchable, mais quand même une voiture hybride. Donc, ça avait été la première avec une composante électrique un peu dedans. On a acheté la PHEV en premier parce qu'on ne se sentait pas nécessairement prêt à être tout électrique. Dans le temps, l'autonomie n'était pas aussi grande qu'il peut l'être aujourd'hui. Et... dans ma maison, c'est un bigénérationnel. Il y a aussi une belle-mère qui a quelques années de plus, qui avait un certain stress de kilométrage électrique. Donc, on voulait éviter ça. Et aussi, on voulait avoir une voiture qui nous permettait d'avoir zéro compromis si on voulait aller loin dans des places un peu plus sauvages. Donc, de là, le choix de la PHEV. Mais je dois dire que la Ioniq, avec ses 50 quelques kilomètres d'autonomie, que j'arrive à atteindre, me permet de me déplacer en ville pratiquement toujours sur l'électrique. J'utilise très peu l'essence, jamais peu souvent. Au début, je me rappelle, on avait participé à l'enquête d'Ajusto. Hein, donc, il fallait contrôler sa vitesse pour avoir un rabais l'assurance. Puis donc, je faisais attention à comment je conduisais, puis ça m'avait permis d'aller à la station d'essence avec cette voiture-là peut-être 5-6 fois, pas plus, la première année au complet.
Wow.
Et puis, ça avait explosé un peu plus, donc 3-4 fois, on les avait faites, 2-3 fois, on les avait faites en allant à Montréal, en revenant, puis en étant en voyage à Montréal, parce que l'hôtel où on était allé, il n'y avait pas de borne. Donc... au bout du compte, c'est là qu'on avait consommé beaucoup d'essence. Sinon, en ville, c'est un plaisir. Tu roules tout le temps avec une voiture très silencieuse et en voiture électrique. La Ioniq, la PHEV, c'est drôle parce que ce n'est pas un variateur, la façon de changer les vitesses.
Il y a une vraie transmission mécanique.
C'est une vraie transmission mécanique, donc tu la sens un peu plus. Mais... par rapport à la Leaf qui n'a pas ça. C'était présenté comme plus pour la Ioniq. Personnellement, la voiture que j'aime le plus dans les deux que j'ai, c'est vraiment la Nissan Leaf. Pour plusieurs raisons, incluant le fait que tu n'as jamais le sentiment d'une vitesse qui change ou d'une friction qui se déclenche.
La douceur complète.
La douceur complète.
Du groupe motopropulseur.
Puis, l'accélération de la Nissan Leaf est incroyable. Comme étant en voiture électrique, tu sens qu'il n'y a plus le délai associé à l'essence qui se rend dans le moteur.
C'est ce qu'on avait vu avec la Bolt. Là, je pense que les deux, on avait été impressionnés.
Ah, oui, absolument. Oui, vas-y, Alexandre.
Ça m'amène sur un autre point. Justement, tu m'as parlé que tu as une Prius C. Là, tu as tes deux voitures, comme un hybride branché, mais électrique. Ça part de où, ça? Parce que tu sais, la Prius C, je pense que c'est comme la graine qui a fait jaillir là, ton envie de faire une conversion électrique complète. Ça part de où, ça?
Bon, moi, je suis un peu geek assumé. J'aime la haute technologie. Puis, pour moi, autrement, une voiture n'est qu'un objet pour aller d'un point A au point B. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est la technologie. Puis moi, particulièrement la technologie associée à l'aspect électrique de la voiture. Puis c'était un choix aussi un peu écologique, philosophique, qui m'a amené vraiment à faire l'effort monétaire additionnel qui était quand même présent au début pour aller acquérir des voitures avec un composant électrique jusqu'à la LEAF. C'est sûr, le gouvernement aide, mais... ces voitures-là coûtent un peu plus cher d'un équivalent qu'on pourrait trouver complètement à essence. Donc,
est-ce que vous avez fait installer des bornes de recharge à la maison?
Oui, j'en ai deux.
Deux?
Ça, c'est deux bornes, deux voitures, deux bornes. Parce que on sait, à terme, il y aura juste des voitures électriques chez moi. Puis au début, on a commencé bien sûr avec une borne. Et quand la deuxième voiture est arrivée, on s'est vu oublier, comme ça arrive tout le temps, débrancher une voiture à un moment donné et ne pas pouvoir le faire parce que c'est l'autre qui charge. Et c'est le genre de choses qui peut générer un stress. Particulièrement, il faut savoir que moi, je vis en bigénération, bien sûr avec ma femme, mais avec ma belle-mère aussi. Et les femmes de la maison ne sont pas nécessairement haute technologie. Il faut baisser le stress, puis... éliminer des sources de stress potentiel comme ça aurait pu être la disponibilité d'une borne pour charger la voiture.
Mais donc, ça m'apporte sur une sous-question, ce Marco. Supposons que quelqu'un part avec la Ioniq, le PHEV, puis la batterie est complètement vide, tu pourrais rouler des jours et des jours juste en mettant de l'essence à l'intérieur, puis il n'y aurait aucun problème.
Il n'y aurait aucun problème.
Il n'y aurait même pas une diminution de puissance ou il n'y a rien, là.
Rien de notable.
Ah ouais, c'est bien.
À part le bruit de moteur.
Oh, oui, mais genre pour gérer le stress, c'est parfait comme compromis dans ton corps.
Ah oui, absolument. Sauf que la belle-mère, elle est assurée seulement sur la toute électrique parce qu'elle, au bout du compte, elle est maître écologique. Donc, c'est celle-là qu'elle prend tous les jours. Mais oui, effectivement, c'est pour ça qu'on a choisi la PHEV au début. C'était justement pour vivre graduellement cette introduction à la voiture électrique qu'on a menée chez nous. Et évidemment, quand la voiture toute électrique est arrivée, ma femme a adoré. Donc finalement, c'est tout le temps elle qui la prend. Puis moi, j'ai ce que j'ai.
Je vis avec
ce qui reste.
Et puis, est-ce que c'était complexe ou coûteux de faire installer des bornes de recharge à la maison? Dans ton cas, deux bornes, je pense que c'est moins typique. Ouais. Des fois, les gens commencent par une.
Surtout que j'ai une maison bigénérationnelle, comme j'ai dit, donc déjà un panneau électrique plein. J'ai dû faire ajouter de la puissance au panneau électrique. Et donc, j'avais déjà un panneau de 200 ampères. On peut aller à 300 et l'étape suivante, c'est 400 ampères. Mais l'installation de 300, qui est relativement récente dans les règles de Hydro-Québec, est possible, puis m'a permis justement d'ajouter les deux breakers de 40 ampères qui sont nécessaires pour des bornes de recharge de niveau 2. Et là, il a fallu trouver... En fait, c'est le gars qui m'a vendu les bornes, qui m'a conseillé un entrepreneur, un électricien. Mais l'aventure n'est pas sans embrouille parce que finalement, l'électricien... On dirait qu'il faut connaître les règles pour faire ce genre d'installation-là très précisément. C'est leur job, mais n'empêche que Hydro-Québec est venu quand même chez moi vérifier le travail et a trouvé des difficultés ou des choses à ajuster. Donc, ça a été un peu une aventure, mais n'empêche que ça s'est relativement bien passé si on compte pas l'argent que j'ai dû y mettre.
Ça a été très, très dispendieux, sans indiscrétion, parce que ça nous donnerait une bonne idée. Là.
Je pense que c'est dans total dans les 3 000 $.
Pour les deux bornes.
Pour les deux bornes avec une installation.
C'est quand même raisonnable.
As-tu bénéficié du rabais aussi qui est donné pour les bornes?
Oui, oui. Il y a 600, quelque chose. Il y a effectivement un rabais sur les bornes qui joue pour les deux bornes.
OK, c'est bon.
Oui, non, c'est correct. Effectivement, ça se fait. Ça n'a pas pesé tant que ça sur le budget familial.
Moi, j'ai ma question préférée que je vais poser, là, parce que je ne manie. Là. La recharge rapide. Là, je vais comme poser comme ma sous-question. Là. Étant donné que tu as une Leaf Plus...
Qui n'est pas refroidie.
Ouais. Puis tu as la prise Shademo qui est sur la fin. Comment ça marche, ouais. Toi, la recharge rapide?
Jamais utilisé de ma vie la recharge
Jamais.
Rapide.
Oh boy.
Ma belle-mère l'a faite. Puis on a juste regardé à l'avance s'il y avait une recharge rapide sur son chemin, puis quel type de borne, ben, des connecteurs étaient disponibles à cette recharge rapide-là, puis on s'est assuré qu'il y avait de bons connecteurs. C'est tout.
Okay. Donc ça, au quotidien, tu utilises les bornes de recharge à la maison, puis
ouais,
en utilises-tu au travail des fois ou juste à la maison?
C'est arrivé, puisque le travail, de façon très gentille, nous offre la possibilité de recharger gratuitement des voitures, mais en général, j'évite parce que ça se recharge la nuit.
Okay. Puis aujourd'hui, si tu fais un aller-retour Québec-Montréal, tu prends la Leaf ou tu prends la Ioniq? Disons que tu fais un aller dans une journée puis un retour une autre journée.
Je prends la Ioniq aujourd'hui parce que si c'est moi qui le fais, c'est ma femme qui a la Leaf, ça c'est sûr, première affaire. Et parce que de toute façon, faudrait que je m'organise pour assurer que je peux faire le voyage au complet avec la Leaf. Puis on l'a acheté pour ça, la Ioniq, donc on l'utilise, disons, tout simplement. Mais je dois avouer que, tu sais, le plaisir de conduite de la Leaf est extraordinaire. On y a déjà pensé à aller à Montréal juste avec la Leaf, mais c'était tout le temps un voyage familial, puis ça finissait que pour éviter le stress, on prenait la Ioniq. Mais c'est tellement le fun, la Leaf, c'est incroyable.
C'est combien d'autonomie, la Leaf Plus? Mettons, dans la vraie vie. Là.
Dans la vraie vie, je suis allé pêcher avec ma fille bien loin, puis je suis revenu sans aucun problème. Puis c'est au moins 350 okay. quelques kilomètres.
Fait que c'est proche de la Bolt. Très proche. C'est quand même bon.
Oui, en fait, je pense que sur papier, il y en a un qui est 400, puis le autre c'est 360 ou 380, comme ça. Puis les chiffres, je les trouve bonnes, en tout cas pour la
Parce Leaf, que si je pouvais te donner un truc éventuellement, parce que te voyant aller, tu vas pas régresser, tu vas avoir des voitures électriques pour remplacer ta Ioniq PHEV. Pour ta Leaf, compte tenu que tu vas peut-être vouloir la garder longtemps, ils vendent des adapteurs qui vont passer de la prise japonaise Shademo à CCS, qui est la prise que toutes les bornes d'Hydro-Québec utilisent maintenant. Et avec ça, tu vas pouvoir faire une recharge rapide 100 kW, là, une recharge qui dure à peu près 20 minutes. Là. Sans problème, si le besoin devient, dans ton cas, là,
merci
ça se fait. Là. C'est pas trop cher. Là. C'est des affaires, une coupe de 100$, mais c'est pas 1000$ là, pour avoir une adaptation. Là. Parce que malheureusement, c'est un standard qui n'a pas poigné. Fait que tout le monde s'en va sur la prise qui est comme mondiale, là, la prise CCS.
Il faudrait que j'aille au Japon puis là, ça aurait poigné.
Mais même au Japon, ils vont le discontinuer. Les nouveaux véhicules Nissan sortent avec CCS. C'est un peu particulier, mais bon.
Puis la dernière question, c'est une question plus ouverte. Là. Maintenant que tu es 100% convaincu de passer à l'électrique, est-ce qu'il y a un véhicule électrique là, qui te fait rêver? Là? Si tu avais un budget illimité, choisir la voiture que tu veux?
Ben, budget illimité pour toujours, pas juste pour l'achat, parce que il faut considérer toujours l'entretien puis la vie du véhicule. Probablement que je remplacerai ma PHEV avec une Tesla Y, par exemple. Tu m'as donné un budget illimité. J'y ajouterai aussi du coating là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème avec la peinture. Puis quelques accessoires, je sais pas. Ouais, c'est ça. Non,
c'est bon,
c'est pas mal ça. Écoute,
un gars convaincu, comme on dit.
Ouais, ben, paraît, on est content que tu aies pu nous parler aujourd'hui, Marco, parce que ça montre aux gens que c'est possible que de passer à l'électrique. Puis dans ton cas, tu as une voiture hybride branchable puis une voiture électrique, mais c'est faisable. Là, puis vous vivez pas, vous êtes, disons, équipé puis arrangé pour pas vivre de stress au quotidien avec ça. Puis c'est totalement fonctionnel. Les gens peuvent faire ce choix-là maintenant, aujourd'hui.
Absolument, absolument. Peut-être avant de finir, j'avais pensé que je voulais vous parler l'anti-rouille que moi j'ai fait faire sur les deux voitures.
Là, c'est
je
intéressant.
Sais pas si, parce que c'est un questionnement qui revient de temps en temps. Au début, on disait qu'on pouvait pas, on ne devait pas mettre l'anti-rouille sur les voitures électriques. Là, je ne sais pas ce que vous pensez de l'anti-rouille. Il y a du monde qui ne veut juste pas en mettre parce qu'ils pensent qu'il ne soit pas nécessaire.
Moi, puis Gab, on n'est pas d'accord là-dessus. On a deux écoles de pensée, mais je veux t'entendre parce que
tu es un vrai propriétaire. Moi, j'aime ça mettre l'anti-rouille sur mes voitures au Québec. C'est clair. Puis, je me suis trouvé un garage spécialisé en anti-rouille pour voitures électriques. Ce gars-là, c'est un mécanicien qui, dès le départ, il est tripeux de voitures électriques comme nous, puis il a décidé de se spécialiser, puis il étudie comment les démonter, les parties qu'il faut démonter pour ne pas endommager la voiture, puis appliquer l'antirouille à la bonne place, l'antirouille Bolduc, sur la rive sud. Puis j'ai toujours adoré le service qu'il m'a donné parce qu'en plus, il m'a fait remarquer, mettons, des points. Tel élément sur la Ioniq, il fallait le protéger un peu plus, tel autre, c'est bien correct. Non, la voiture va bien, je ne vois rien en dessous, tout est correct. T'sais, il m'a aidé, il m'a conseillé aussi de voir comment maintenir la voiture en bon état au Québec.
Super. Ben, je suis content d'entendre ça parce que c'est quelque chose qu'on a de la difficulté, moi et Gab, à trouver de l'information dessus. Puis tu sais, c'est comme des mythes automobiles. Là. Des fois, il y en a que tu ne sais pas, mais... C'est bien, ça. Parce que, aussi, la grosse crainte, c'est la batterie, là, parce que, tu sais, c'est comme vivant, là, puis il faut pas la déranger.
Ben, parce qu'en plus, à un moment donné, il y avait des sortes de liquides anti-rouille qui pouvaient endommager certains plastiques utilisés pour la protection des fils, supposément, ou des conduits électriques. Ben, regarde, tu vas chez quelqu'un qui connaît ça, puis il n'y en a pas de problème.
Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait une solution, parce que dans même pas 10 ans, la majorité du parc automobile va être électrique. Puis le calcium sur les routes va continuer d'exister. Fait qu'en réalité, c'est bon. Je suis très content d'entendre ça.
Le marché va s'adapter. Moi, je fais toujours traiter ma voiture à l'antirouille. Alexandre, il achète des voitures qui, selon lui,
nécessitent pas d'antirouille. Mais... Ils ont comme genre 40 kilos de peinture de plus qu'une Toyota. Fait que normalement, c'est correct.
Mais moi, j'avais une Toyota Echo avant que j'ai gardé pendant 16 ans. Et je l'ai vendue sans trou en dessous parce que j'ai toujours fait l'antirouille.
Wow! Mais je crois à l'antirouille, c'est qu'il y a certaines voitures que la protection de la peinture et de l'antirouille est tellement complète que mettre de l'antirouille par après ne fait qu'emprisonner l'humidité et le sable. Fait, t'sais, je comprends l'antirouille, c'est juste que tout dépendamment de la qualité de voiture que tu as ou du design, des fois c'est pas nécessaire, même si c'est écrit dans le manuel de ne pas le faire. Donc, mais je comprends très bien.
On sait qu'Alexandre aime les Volvo maintenant.
C'est très bon.
C'est de belles voitures.
Pas toujours parfaitement fiable, mais c'est très, très bon.
Excellent. Donc, merci beaucoup, Marco. Merci d'avoir été notre premier invité 100% électrique. C'est très apprécié. Ouais.
Puis on a fait plaisir. Ça complètement par Internet. Là. Je suis vraiment impressionné de la solution technique. Là. C'est merveilleux.
Excellent. La prochaine voiture que j'achète, je vous appelle. Puis on en fait
absolument. Ben, merci beaucoup, Marco, pour ton temps.
À la prochaine.
Merci.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Ben honnêtement, Gab, j'ai trouvé ça super intéressant entendre l'expérience de Marco parce que, tu sais, dans notre monde, nous, on voit les voitures électriques, on voit les plus chères, mais tu vois que c'est extrêmement pratique et pragmatique, sa vie, puis il n'est pas tombé en panne, il n'est pas malheureux.
Ça montre que, puis c'est ça qu'on a conclu, c'est qu'on a essayé la Bolt, là. Tu peux avoir des autos électriques au Québec. Si tu as deux voitures, une hybride branchable puis une voiture électrique, probablement la meilleure combinaison, tu ne te retrouves jamais dans une situation problématique. Si tu as tes bornes de recharge à la maison, encore une fois, tu élimines le stress, c'est important pour Marco. Puis, ça fonctionne, son setup. Là. C'est jamais arrivé, je pense, qu'il ne rentre pas travailler parce qu'il n'y avait pas de charge dans sa batterie. Il est équipé pour que ça fonctionne, puis ça fonctionne. Donc, sur ce, on va se dire à la semaine prochaine.
Absolument, Gab. Merci beaucoup.